Monsieur Nordine Zidouni, bonjour.
Bonjour madame.
Alors le tabac tue et tue chaque jour 45 personnes en raison de maladies graves causées par le tabagisme. La cigarette est à l'origine de 25 maladies graves, dont 90% sont des cancers. Face à ces dangers causés par la cigarette, faut-il aujourd'hui tirer la sonnette d'alarme?
Je crois que c'est le moment de tirer la sonnette d'alarme parce que c'est un problème de santé publique qui interfère avec dans tous les domaines de la vie économique et sociale. Et c'est pour ça que nous avons été sollicités pour coordonner les actions d'un comité multisectoriel qui sort du circuit traditionnel de la préoccupation du ministère de la Santé pour réunir tous les intervenants qui sont concernés à plus d'un titre par ce fléau qui est la consommation du tabac.
Mais faut-il agir et agir vite, comme cela s'est fait et se fait dans de nombreux pays, aller vers la coercition?
Je pense qu'il faut aller graduellement vers la coercition dont vous parlez. Il y a une loi dont vous allez parler, je pense, qui est celle de 2001, qui est une loi qui interdit de fumer dans les espaces publics. Cette loi n'a pas du tout été respectée. Beaucoup de gens, de personnes, de divers secteurs, ignorent totalement qu'une loi a été promulguée en ce sens. Résumant, confinant, réduisant cette préoccupation au seul département de la santé, puisqu'en fait, nous, quand je dis nous, je parle du département de la santé, du corps médical, des institutions, de la politique de santé de notre pays, nous sommes le réceptacle d'un désastre qui conduit immanquablement à une détérioration marquée, importante de la vie.
Alors vous dites qu'il faut aller graduellement vers la coercition, mais en attendant, que faut-il faire? Puisque vous l'avez dit et signalé, je devais l'aborder aussi avec vous, il y a eu différentes lois promulguées relatives à la vente, la distribution et l'interdiction de la consommation du tabac en lieu public, mais toutefois, c'est la triste réalité, rien de ces lois ne sont appliquées aujourd'hui. Même les conventions internationales ne sont pas respectées.
Eh bien, vous avez tout à fait raison, mais c'est la première fois qu'il y a un comité multisectoriel qui regroupe tous les départements, la plupart des départements ministériels pour élaborer une stratégie concernée. D'après les discussions que nous avons eues avec les autorités du pays, et puis c'est un signe qu'on se préoccupe également de la santé des citoyens, c'est que nous devons aller graduellement. Tout d'abord, et nous commençons à peine une stratégie de sensibilisation sur les méfaits du tabac. Cette sensibilisation doit être la plus large possible, la plus compréhensible possible, la plus réaliste possible pour qu'elle soit comprise et entendue. Et ensuite, nous passerons à une seconde étape où nous proposerons des mesures coercitives pour que l'arrêt de la tabagie soit un délit dans notre pays.
Mais justement, c'est considéré dans beaucoup de pays comme étant un délit. Et nous avons constaté de visu que des Algériens sortis du territoire algérien respectent strictement les règles de pays interdisant de fumer dans les lieux publics. Or qu'ici, rien n'est fait. De 2001 à ce jour, c'est 13 ans et on n'a pas réussi à appliquer une loi. C'est quand même malheureux.
Vous constatez avec moi le degré d'incivilité de la population, et ça, tout le monde en est conscient, mais vous remarquez également que sortis des frontières de notre pays, les Algériens se comportent très bien. Donc il faut arriver...
Dès l'arrivée à l'aéroport,
voilà, il faut
international étranger.
À ce qu'ils aient le même comportement à l'étranger et dans leur pays. Et vous avez raison de citer l'aéroport, et ça, nous l'avons dit lors de notre commission aux représentants du ministère des Transports, l'aéroport est le réceptacle des fumeurs. Les personnels navigants vers Algérie, les corps de sécurité, fument tranquillement sous les panneaux géants d'interdiction de fumer. Et là, il y a un gros travail de sensibilisation à entamer.
Alors vous parlez de mesures que vous devez prendre et mettre en œuvre. Vous en parlez de graduellement aller vers certaines dispositions coercitives. Certains revendiquent aujourd'hui d'imposer une amende qui varie entre 2 000 à 30 000 dinars. Vous êtes favorable? Vous pourrez le proposer?
Il faut proposer le prix, je ne pourrais pas vous dire maintenant. Mais c'est vrai qu'il faut aller graduellement vers la coercition. Le plaidoyer que nous commençons à réaliser, parce que notre comité est jeune, nous installons les bases de la stratégie de notre action future, et nous avons déjà côtoyé quelques représentants de la nation, les députés, qui ont proposé déjà une augmentation de 10 à 15% du paquet de tabac. Nous discutons avec les représentants du ministère du Commerce pour que les messages éducationnels, d'éducation, soient présents sur chaque paquet de cigarettes, en disant que fumer c'est dangereux et que ce soit bien lisible.
Mais est-ce que c'est suffisant?
Il y a une série de mesures, pas la seule. Comme l'interdiction de la vente du tabac aux mineurs, il faut y arriver. Et il faut aller dans les alentours des lycées et collèges pour voir que les tables dans la rue contiennent des cigarettes et sont aisément vendues. Et ceci est un danger, puisque je le dis, et là je parle en tant que pneumologue, les fumeurs d'aujourd'hui sont les bronchitiques et les emphysémateux, ce qu'on appelle la BPCO de demain, et les cancéreux d'après-demain. Dans mon service, que je dirige un service de pneumologie, il y a un bouleversement radical, une transformation très importante de la pathologie. Il y a quelques années, lorsque j'étais jeune praticien, nous étions confrontés aux maladies infectieuses. Dans nos services, il y avait des maladies infectieuses sévères, de la tuberculose. Ensuite, nous avons commencé la transition épidémiologique. Nous avons eu des maladies chroniques, dégénératives, métaboliques, liées à des désordres organiques du corps, des systèmes cardiovasculaires, respiratoires, endocriniens, métaboliques, etc. Et maintenant, la plupart de nos malades sont admis parce qu'il y a une suspicion de cancer que nous prouvons dans la plupart des cas. Donc il y a cette transformation radicale de la pathologie envers une augmentation, et monsieur le professeur Bouzid, vous avez reçu, on a largement démontré les causes, les circonstances et les d'apparition et les attitudes de stratégie à réaliser. Eh bien, il faut que cela cesse. Je vais vous énoncer un sentiment, c'est que on nous répond, pas de façon officielle, mais on nous répond que la fiscalité hors hydrocarbures est dans une large mesure apportée par la rentabilité de l'industrie du tabac. Et c'est vrai. Mais ce qui est vrai, c'est que nous remboursons au centuple cette fiscalité hors hydrocarbures, puisque les malades que nous traitons à cause du tabac reviennent 100 fois plus cher que les recettes que l'État engendre. Donc il faut, pour les politiques, pour les financiers de ce pays, arriver à un compromis pour que nous puissions avoir comme premier élément la défense de la santé de nos concitoyens.
Mais ce qui est relevé aussi, c'est que dans les décrets d'application qui ont suivi la promulgation de la loi 87 de 2001, on relève des lacunes qui ne précisent pas, en fait, les espaces où il est interdit de fumer. On parle d'interdiction, mais sans préciser exactement où, comment et qui.
Vous avez tout à fait raison.
Est-ce que vous allez combler justement ces lacunes par rapport à la commission que vous dirigez aujourd'hui ?
La commission que je dirige va prendre ses orientations sur la loi sanitaire qui est en cours de réalisation, qui est terminée, mais qui va être bientôt signée et ratifiée. Et bien dans la loi sanitaire, il y a 12 articles au minimum sur les modalités de cessation de fumer et de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Et nous avons, nous, dressé une liste d'endroits, d'espaces publics où il sera interdit de fumer. Donc, par exemple, les gares, les aérogares, les gares maritimes, les hôpitaux sans tabac. Nous avons des hôpitaux sans tabac. Mais malheureusement, encore, on constate des personnes qui fument dans les lieux publics. Oh, combien démonstratif qu'est l'hôpital, pas plus tard qu'avant-hier. Je me suis retenu pour ne pas parler parce que je n'avais pas le droit de le dire, mais en achetant mon journal, j'ai vu un jeune collègue, résident ou assistant, sortir en blouse et aller acheter un paquet de cigarettes. Ça, vous dire combien profond est le mal.
Oui, justement, vous avez défini un peu la liste des endroits où il sera à l'avenir interdit de fumer. À partir de quand ? Janvier, vous allez remettre votre rapport ?
Nous allons le remettre incessamment, puisque nous avons fait déjà la deuxième réunion. J'ai un document rédigé que je vais soumettre au service du Premier ministre en identifiant notre stratégie et en proposant donc la liste des espaces qui seront retenus.
Et à partir de janvier, on commence à appliquer ?
Ah, je ne pourrais pas vous dire, c'est le législateur qui va vous le dire, madame. Moi, j'ai un rôle purement technique de proposition, de recommandation.
Professeur Noureddin Zidouni, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans deux petites minutes tout de suite. Alors, professeur Noureddin Zidouni, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On a parlé un peu des dispositions de la loi promulguée en 2001, mais qui n'est pas effective à ce jour, c'est-à-dire 13 ans ou 14 ans après. Il y a autre phénomène. Est-ce qu'il faudrait carrément prendre des décisions et rapides pour mettre fin à cette vente libre de la cigarette, notamment aux mineurs, puisque selon certaines enquêtes qui ont été engagées, 7% des élèves du cycle primaire, c'est-à-dire dans l'âge varie de 6 ans à 11 ans consomment en moyenne 6 à 7 cigarettes jour et 11% du cycle moyen, des élèves qui sont au moyen, consomment 5 à 10 cigarettes jour. C'est... Et ils peuvent accéder à la cigarette librement.
Tout à fait, c'est notre vœu le plus cher. Un des aspects de coercition dont vous parlez, c'est identifier les mécanismes qui vont permettre d'interdire la vente du tabac aux mineurs. Je précise vos chiffres, c'est que lorsque j'étais directeur général de l'Institut de Santé Publique, nous avons mené de larges enquêtes à travers le pays, notamment chez les étudiants du supérieur, avec les médecins qui sont dans les universités, et on avait retrouvé le chiffre effarant de 21%, 21 à 25% de fumeurs chroniques qui fumaient régulièrement plus de 10 cigarettes par jour. Et également, il faut souligner le fait que le tabagisme n'est plus exclusivement masculin, puisqu'il y a également un tabagisme féminin qui commence à prendre de l'ampleur dans notre pays.
Il prend de l'ampleur, les indicateurs ?
Eh bien, les indicateurs, c'est que ça reste encore rare, non marginal, puisque des enquêtes ponctuelles ont été faites dans plusieurs endroits concernant l'ABPCO. L'ABPCO, c'est l'acronyme de bronchopneumopathie chronique obstructive, qui en fait sont les bronchites chroniques et les emphysèmes. Eh bien, le taux de la prévalence dans la population, c'est de 5% chez les adultes âgés de 40 ans et plus. Lorsqu'on augmente dans l'âge, ça passe à 15 ou 16%. Et parmi les 16%, il y a en moyenne 5% qui sont des fumeurs chroniques de sexe féminin.
Il y a les fumeurs et les fumeurs passifs également, parce que vous avez dans des espaces, par exemple, fermés, où il est dit, il est interdit de fumer. C'est un espace fermé, mais les gens sortent dans les couloirs pour fumer, alors que c'est un espace fermé. C'est le cas, par exemple, chez nous, hein, à la chaîne 3.
Le tabagisme passif est également un fléau qu'on vient de traiter avec la même vigueur et vigilance que le tabagisme actif, ce qu'on appelle la fumée secondaire, et qui entraîne les mêmes symptômes, les mêmes risques et la même pathologie que les fumeurs, avec beaucoup moins d'acuité, beaucoup plus tardivement, avec un retentissement moins important, mais qui n'est pas négligeable, puisqu'on a vu des maladies respiratoires chroniques, même des cancers, chez des personnes qui n'ont jamais fumé, mais qui ont côtoyé leur vie durant un fumeur.
Mais pour les mineurs, est-ce qu'il faut prendre des dispositions radicales pour interdire la vente libre du tabac? Puisque maintenant, vous avez même l'inconscience de certains parents qui envoient leur enfant leur acheter le paquet de cigarettes.
Oui, il faut que le législateur...
Et ça existe, on le voit et on le voit au quotidien.
Il faudrait que le législateur trouve les solutions idoines pour permettre ce genre de répréhension et de respect de la loi.
Mais est-ce qu'il faudrait aujourd'hui carrément inscrire la lutte contre le tabac parmi les priorités de la santé publique?
C'est écrit dans les priorités de santé publique et dans la loi sanitaire qui consacre plus d'une douzaine d'articles à la lutte anti-tabac.
Alors, arrêter de fumer, ça a des bienfaits?
Ah oui, ça ne procure que des bienfaits, puisqu'on retrouve le dynamisme, on retrouve une sensation que le fumeur ne connaissait pas ou ne connaissait plus.
Mais il y a une période de sevrage.
Et vous avez une plaquette ici qui montre que déjà dès les premières minutes, ensuite à 3 mois, 6 mois et à 10 ans, après 10 ans de sevrage, l'organisme fonctionne comme s'il n'avait jamais été intoxiqué par la fumée de cigarette.
Mais combien de temps il faudrait pour arrêter de fumer, par exemple, quand on a fumé 10 ans? Combien de temps il nous faut arrêter?
C'est très variable. C'est très
variable. Il faut se faire accompagner.
C'est très variable et il y a des méthodes d'aide au sevrage tabagique. Ça commence par le conseil minimal, puis des produits de substitution jusqu'à libérer, le mot n'est pas fortuit, jusqu'à libérer le fumeur de cette substance addictive.
Alors justement, vous avez parlé tout à l'heure du professeur Buzid et il a relevé que dans le plan anti-cancer qui sera présenté prochainement au président de la République, qui a été élaboré par le professeur Zitouni, il est inscrit en priorité la lutte contre le tabac, pour l'arrêt de la cigarette, pour diminuer le nombre de cancers. Vous avez travaillé aussi
C'est notre contribution et nous avons fourni au professeur Zitouni les recommandations du comité multisectoriel que je préside.
Alors, autre question aujourd'hui, et c'est à la mode, la cigarette électronique.
Alors la cigarette électronique, ça fait le buzz pour parler comme les jeunes. Et ça a été également, je pense, c'est une percée. Mais l'enthousiasme créé par l'introduction de cette méthode de tabagisme commence à s'estomper. Au début, les pays qui l'ont appliqué, les pays européens aux États-Unis se sont dit tiens, c'est un substitut valable pour empêcher les gens de fumer. Mais on s'est rendu compte que la cigarette électronique pouvait être attractive chez les adolescents, mais c'était souvent, et ça, les enquêtes l'ont montré, un stade préparatoire, je dirais, ou de pré-consommation tabagique de cigarettes réelles. Et c'est pour ça que les politiques de santé, de prévention du tabagisme dans ces pays recommandent maintenant la cigarette électronique, non pas comme méthode de remplacement, de substitution, mais comme méthode d'aide au sevrage tabagique chez les fumeurs, et non pas ceux qui n'ont jamais fumé. Et c'est pour ça que si vous remarquez dans l'actualité, les multinationales du tabac se sont emparées de ce créneau qui est la cigarette électronique en vantant les bienfaits parce que ça va aboutir à une consommation tabagique régulière de tabac.
Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, par exemple, la normaliser, la réguler, l'organiser, cette vente ?
Il faut l'organiser comme une méthode médicale d'aide au sevrage tabagique et ne pas permettre son utilisation largement à nu et en vente libre.
Limiter sa vente au niveau des officines, des pharmacies.
Limiter sa vente au niveau des officines et des pharmacies sur prescription médicale.
Alors vous avez aussi un phénomène auquel nous sommes confrontés ces derniers temps, soi-disant, que vous avez par exemple les gens qui utilisent cette cigarette. Est-ce qu'on peut considérer qu'elle pourrait parfois être plus nocive que la cigarette ? Ou non, pas du tout.
La cigarette électronique ?
Oui.
La cigarette électronique ne comporte pas les 4000 substances que vous avez sur le schéma. Là. C'est 4000 dont les noyaux benzopyrènes, le polonium, les DTT, l'arsenic, etc. Mais c'est une substance qui contient des produits chimiques, certes en quantité infinitésimale, mais il n'y a pas assez de recul pour en juger de façon efficace les effets néfastes. Il y a des colorants, il y a de la nicotine qui, elle, est un produit qui entraîne la dépendance et qui peut entraîner également une autre demande vers la consommation de tabac. Mais c'est vrai que les risques sont totalement différents, mais le risque, quand bien même négligeable à l'heure actuelle, n'est pas démontré, mais il suffit justement à ce que l'on soit vigilant vis-à-vis de cette nouvelle attitude.
Alors j'allais vous la poser juste avant. Il y a cet effet de mode aujourd'hui. On passe de la cigarette à la cigarette électronique et aujourd'hui à la chicha. Alors vous allez dans des endroits qui vous proposent ça et c'est tout en fumée. Alors Détroit, quel est le plus nocif ?
Ah, c'est la chicha, incontestablement.
C'est devenu un effet de mode, hein, partout maintenant.
C'est un effet de mode dans les quartiers huppés d'Alger ou la jeunesse.
Partout, pas Alger.
Ah, d'accord.
Même ailleurs, je l'ai vu,
oui,
moi.
Donc, j'étais. Et ça, il faut savoir qu'un récipient contient 20 paquets de cigarettes. C'est comme si on utilisait, au lieu de fumer un paquet, on en fume 20.
Et ceux qui sont présents, qui ne fument pas la chicha,
et ceux qui
subissent la les fumeurs passifs.
Voilà, sont soumis à un tabagisme passif beaucoup plus important qu'au contact de fumeurs de cigarettes.
Mais c'est devenu carrément un effet de mode aujourd'hui dans les restaurants, dans les cafés.
Dans les restaurants, et c'est une attitude qui a été copiée dans des pays
Moyen-Orientaux.
Et là, on va tirer également la sonnette d'alarme pour que cela ne se reproduise, ne s'éternise pas, ne se pérennise pas du moins.
Alors aussi, vous avez un autre phénomène, c'est que quand vous allez par exemple dans un lieu public, un restaurant par exemple, vous avez un endroit fumeur et endroit non fumeur. Est-ce que ça s'applique, ça doit s'appliquer alors que c'est un endroit fermé et c'est un petit espace, généralement c'est des petits locaux.
Il faut qu'il y ait des espaces fumeurs parce qu'on...
Mais à l'air.
Il est... Oui, oui. Dans un...
Aéré.
L'histoire des pays qui ont élaboré des politiques de prévention du tabagisme... efficace. On a commencé à avoir des espaces fumeurs au fond des salles, dans des atmosphères confinées. Ça a commencé comme ça. Et ensuite, on s'est dit, ce que vous disiez, que même dans ces espaces confinés, la circulation de l'air faisait en sorte que la fumée ne se gênait pas pour rejoindre les espaces fumeurs. Et maintenant, les gens fument dehors. Vous avez vu les messages publicitaires de gens qui tremblent de froid, etc. en sortant. Mais ce sont des étapes. Nous allons proposer carrément un espace fumeur en dehors. Il est possible que nous ayons des réticences et que nous soyons obligés de consacrer des espaces fumeurs dans des espaces fermés, mais il faut qu'ils soient je voudrais étudier au cas par cas.
Mais est-ce que vous pouvez déjà nous énumérer les 12 espaces que vous avez retenus que vous allez proposer à l'interdiction de fumer?
Ben c'est le ministère de la Justice qui est membre de ce comité nous a déclaré qu'il va y avoir une interdiction de fumer dans toutes les institutions dépendantes du ministère de la Justice, c'est-à-dire les cours de justice, les notariats, etc. Nous nous faisons, dans le comité, puisqu'il y a un comité santé qui est dirigé par des collègues, réserver des hôpitaux sans tabac du tout. Il n'y a pas d'espace fumeur et non-fumeur. Il y a également d'autres départements ministériels, comme le ministère de la Jeunesse et de la Jeunesse, qui est avec nous et qui va identifier les endroits, d'auberges de jeunesse, les lieux
dans les ports, aéroports, le métro, parce que le professeur Bouzid a relevé que les gens fumaient dans le métro.
Je l'ai entendu. Ça, c'est le ministère des Transports. On nous a dit dans les gares, aérogares, gare routière et métro également.
Ça veut dire à l'avenir, on va circuler avec une cigarette à la main dans un lieu où il est interdit de fumer, on va être verbalisé.
Ça, c'est notre souhait le plus cher. Et nous espérons, enfin, nous allons le recommander de façon explicite. Ensuite, c'est le politique et le législateur qui doit interférer en ce sens.
Alors, en chiffres, moi j'ai donné au tout début de cette émission qu'en Algérie, le tabac, la cigarette, tue 45 personnes jour. Vous confirmez ces chiffres?
C'est une estimation, je pense que c'est peut-être même sous-estimé.
Sous-estimé?
Possible, oui. Possible.
Ça pourrait être plus grave?
Ça pourrait être plus important.
Par exemple, vous avez un indicateur chiffré? En moyenne et annuellement.
J'ai dit c'est une estimation, donc ça pourrait être à 50. Hein. Autour de 50.
Jour,
oui, bien sûr.
Finalement, la cigarette tue plus que les accidents de la circulation.
Beaucoup plus. Et de façon pérenne.
Professeur Nordine Zidouni, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous dans le studio. Merci beaucoup et bon courage pour la remise de votre rapport que nous espérons prochain.
Merci de m'avoir invité et d'avoir profité de cet espace pour justement débuter notre action de sensibilisation.